Odile, je voudrais revenir à l'origine du texte Clémence la Victorieuse qu'on a lu hier soir. Tu nous as dit que qu'à l'origine c'était un roman. Et je voudrais savoir comment ce roman se transforme, comment, pour être plus précis, cette matière romanesque abondante trouve une solution dans, enfin, au théâtre, dans l'écriture d'une pièce de théâtre.
En fait, je dirais que le passage du roman au théâtre, il trouve sa solution, enfin, disons peut-être une première forme de solution, c'est passé par la musique. C'est-à-dire que ce qui m'a inspirée, c'est aussi dans l'écriture de ce texte, c'est des œuvres de Bach. Donc j'avais écouté des fugues de Bach, et c'était de se dire, voilà, je... Parce que pour moi, Bach, il est imposant, il est... on peut s'appuyer dessus. Et je m'étais dit, je vais essayer de m'appuyer sur cette musique. Donc, je dirais que la solution, c'est pas vraiment une solution, c'est qu'un transfert. De prendre, en fait, d'aller chercher dans la trame romanesque, finalement, ce qui est l'ultime mot.
Dans l'oralité.
Dans l'oralité. Et ensuite, pour pouvoir donner une forme à cette oralité, c'est de s'appuyer sur la musique. Et moi, je me suis appuyée sur des œuvres de Bach.
Pour essayer d'être un peu concret, en essayant de résumer la pièce, ce qui est un peu compliqué d'ailleurs, mais c'est le sous-titre, c'est Oratorio pour un village. Il y a de nombreux personnages, nous étions 22 acteurs en scène, je crois, et un acteur par rôle. J'écoute les enfants de cœur, on pourrait être 25 aussi bien. Parce que j'ai réduit le cœur des femmes, j'ai réduit le cœur des hommes à deux acteurs à chaque fois. Enfin bon, ce nombre, cette espèce de cœur, est-ce que c'est ça la référence à Bach? Est-ce que les solos, les soli, comme on devrait dire, s'appuient sur ce fond, sur cette rumeur collective? Est-ce que c'est ça le projet?
Non.
Non. Alors c'est quoi le projet?
En fait, le projet, c'est de se dire, avec autant de personnages, comment arriver à une sorte de forme qui tienne debout. Et les chœurs, c'est seulement après que j'ai nommé ces personnages les chœurs.
Enfin, en réalité, à l'origine, ce sont des trajets singuliers.
Oui, c'est des trajets singuliers. Et en fait, chaque personnage a sa trajectoire comme un instrument de musique.
Donc on a Clémence. Clémence qui est une sorte de recluse.
Oui.
Ignorante de qui est sa mère, de qui est son père, et qui, au fur et à mesure que la pièce avance, le découvre, l'apprend. Le prêtre, le curé du village, Joshua, qui est le père de plusieurs enfants dans le village. Il y a une charge érotique très forte dans la pièce. Tu es du nord et moi j'entends la pièce dans le sud. Enfin, je la vois dans le sud. Dans un village du sud plutôt, méridional. Il y a Jacqueline, la poissonnière sans poissonnerie, avec ses deux enfants, qui est l'amour, la représentation même de l'amour, qui meurt et qui meurt un peu comme une sainte. Il y a Camomille qui est l'amour, mais l'amour brûlant, sexuel, immédiat. Il y a Achille, qui est un forçat. Dont je n'ai toujours pas très bien compris s'il était là, s'il était revenu depuis longtemps, ou s'il venait de revenir au village. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour récent.
Oui, c'est un retour récent au village, en fait.
Mathias, qui est son frère de lait, qui aime Clémence et qui sera rejeté par Clémence, oui, d'une certaine manière, et qui devient le meurtrier. Mm-hmm. Il a 3 coups de feu à tirer à l'origine. Il tire les 3 à chaque fois qu'il tue une personne. Mm-hmm. Donc Jacqueline, Noëlla la fromagère, qui est la mère de lait d'Achille et de Mathias. Je crois que personne ne comprend ce qu'on raconte. Mais voilà, ce sont des trajectoires comme ça, croisées, oui, à l'intérieur d'une communauté, oui, villageoise, qui est pleine de secrets.
Oui.
Et beaucoup qui sont des souterrains qui relient les caves entre elles, oui, où il y a de l'or caché. Et ce village est sous la menace imminente d'un engloutissement sous les eaux.
Oui.
Voilà. Et nous sommes le 14 juillet. Unité, oui, de temps. Ça, oui, se passe le jour du 14 juillet. Voilà, c'est pour situer de façon très... comme un... j'ai un peu l'impression d'avoir posé en désordre les pièces d'un puzzle.
Oui. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, quand, pour revenir à la question initiale, il y a cette trame romanesque où finalement j'ai commencé à décrire la vie des personnages séparément, ensuite ensemble. Et donc à chaque fois, il se passe des confrontations, des moments où ils sont tous là en même temps. Et je me disais, par le roman, j'arriverai pas à montrer cette multitude. En fait, je ressentais en moi peut-être un manque technique dans l'écriture pour montrer la multitude. Et donc je me dis, il faut qu'ils prennent chacun la parole. Donc ensuite, pour justement, devant la trame de chacun des personnages qui se lient les uns aux autres, je me disais, j'ai écouté beaucoup de musique, parce que je me suis dit, quand il y a plusieurs instruments, comment ils jouent ensemble, comment un instrument va faire un accord qu'on va entendre, je pense, je sais pas, des vents qui vont commencer à faire une sonnerie, ensuite il va y avoir l'entrée des cordes, et je me suis appuyée en fait sur cette idée-là pour pouvoir construire ce puzzle. Et c'est vrai que, en fait, j'allais dire que c'est comme si on avait un arbre, on coupe, on a une fine lamelle avec toutes les ramifications et l'âge de l'arbre qui apparaissent, et en même temps, c'est qu'une tranche de vie, quoi. C'est une tranche de vie. Et dans cette tranche de vie, c'est une journée où j'essaye d'assembler des éléments classiques de la dramaturgie, en fait, hein, l'unité de lieu, de temps et d'action. Mmh. Alors, avec toutes les difficultés que ça m'a posées, et donc mon seul appui ne pouvait être que musical. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu cette lecture, bon, ben, d'un seul coup, il y a plein de choses qui se réveillent, parce que d'abord... moi, j'ai que ma voix pour jouer tous les personnages, donc je m'appuie sur une ligne directrice et je me dis, bon, là, musicalement, ça tient la route. Mais après, quand ça s'éveille dans la lecture, quand les choses éclosent comme ça au grand jour, et se révèlent aussi, parce que moi, il y a des secrets que j'avais pas devinés et que j'ai écrits et qui sont cachés et qui sont révélés par un metteur en scène, par les acteurs. Bon, ben, d'un seul coup, je vois aussi comment... En tant qu'auteur de Clémence, je peux retravailler, je peux redonner une direction au travail, même une direction musicale, et me dire finalement, c'est peut-être pas un oratorio, c'est peut-être une symphonie, et changer de forme, et s'appuyer aussi sur l'existence de formes classiques qui peuvent exister, comme le concerto, où il y a... Enfin là, je change encore de forme, mais bon, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs... Et du coup... c'est là où, d'un seul coup, je vois que la matière romanesque est tellement épaisse que cette pièce, finalement, est une sorte de condensation rapide, parfois presque, comment dire, comme un brouillard, un nuage de poussière où il se passe plein de choses. Et du coup, bon, bah, ça peut peut-être être sur de la durée, s'étendre. Peut-être qu'il y a beaucoup de questions qui jaillissent, quoi.
Moi, je vais revenir à l'histoire de la règle des 3 unités.
Oui.
Comme contrainte. Et ce qui me semble dans la pièce, c'est que il y a une volonté effectivement d'être dans l'observance de cette règle,
oui,
mais elle explose complètement en vol. C'est-à-dire que c'est le 14 juillet, bien, mais il n'y a pas de raison, rien n'interdit de penser que ça se déploie sur plusieurs jours. Mmh. Donc déjà le temps se dilate, ouais, je trouve. Ensuite, sur l'unité de lieu, alors l'unité de lieu, c'est le village lui-même. Mmh. Mais en même temps, si on entend la règle des trois unités au sens strict, il n'y a pas de passage intérieur-extérieur. Or, constamment dans la pièce, on passe de l'intérieur, on est chez Clémence, on est sur la place du village, on est dans l'église, on est peut-être à certains moments sur le parvis de l'église, on est au presbytère, on est, enfin voilà, il y a, on est devant la faille qui s'ouvre, ce sol qui tremble régulièrement, qui ouvre une faille dans laquelle l'eau bleue produite par le lisier finit par former une espèce de lac qui va engloutir le village. Donc l'unité de lieu elle-même explose.
Ouais.
Quant à l'unité d'action, là aussi elle explose.
Ouais.
Mais c'est bien parce que, enfin, moi je trouve ça intéressant de partir de cette contrainte classique pour que tout d'un coup ça se. Ça ne répond, les commandes ne répondent plus. C'est-à-dire que l'écriture a sa propre logique. Il y a une espèce comme ça de fuite en avant. Oui, et je reviens donc à l'unité d'action. Il y a beaucoup de destins qui se croisent et qui se racontent. On pourrait peut-être parler même de saga. C'est-à-dire que là, on a fait tenir la lecture en faisant quelques coupes. On a fait tenir la lecture, ce qui n'est pas non plus tout à fait une mise en scène, mais la lecture a tenu en 1h45 peut-être.
Ouais.
Si on n'avait pas fait de coupe, on était autour de 2h, 2h15 en lecture mise en espace avec des vrais temps de jeu bien sûr, mais... Mon sentiment à moi, c'est que tout n'est pas encore raconté.
Ouais.
C'est qu'un certain nombre des destins qu'on nous propose de suivre ne sont pas encore complètement écrits.
Ouais.
Je pensais à Jacqueline, par exemple, le rôle de Jacqueline,
qui a
une importance... très grande dans la pièce, mais qui en quantité est un peu réduite. Parce que j'ai quand même l'impression parfois que tu avais besoin de faire de la place. Alors chacun se resserre un peu pour laisser la place à tous les autres d'exister.
Ouais. Mais quand tu dis par exemple que tout explose, justement comme je dis pas mes critères de départ, je voyais qu'ils partaient complètement. Après, on suit la propre logique et on se dit bon, faut que je mette un point. Enfin, quelque part, il y a comme une ligne qui doit arriver sur une autre, sur un point, un autre point. Et c'est vrai que c'est en ça que hier j'ai vu que il y a encore beaucoup de choses à dire.
C'est un gros chantier. Enfin, oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que t'es en face
d'un gros chantier.
Mais passionnant, c'est-à-dire que ou bien tu réduis, c'est-à-dire que tu élagues dans la matière romanesque et pour te concentrer sur quelques personnages, ou bien ça devient cette pièce qui, dans son état actuel, durerait en représentation 2h30, quelque chose comme ça, peut-être 3h, je ne sais pas. Devrait faire l'objet de 2 ou 3 épisodes de 2h30 chacun. Si ça doit tenir en 2h30, il faut redonner de la matière à certains et enlever des choses, renoncer à des choses. S'il s'agit de ne renoncer à rien, moi je crois que ce serait dommage de renoncer à quoi que ce soit. Il faut peut-être accepter cette espèce de choses encore plus impossibles qu'elle n'est déjà, qui consiste à dire ben c'est 8 heures de spectacle.
Ouais.
Ben c'est un très très gros travail, évidemment, mais j'ai l'impression qu'on est dans ce choix-là.
Ouais. C'est vrai que moi, ce texte, en fait, maintenant qu'il a été lu et mis en voix, je me rends compte que je l'ai encore écrit dans l'idée que ça se lisait. Enfin, c'est entre la scène et le fauteuil. Et maintenant, le travail consiste à se dire...
Trop tard. Trop tard, maintenant c'est fait.
C'est fait, oui.
Ouais. C'est sorti du fauteuil.
C'est sorti du fauteuil. Et donc, sorti du fauteuil, et ben, il y a le chantier qui se montre, quoi. Mmh. Et là, bon, après, c'est mon ressort, mais...
Oui.
Non, mais c'est vrai que là, je vois le... Je me dis, j'en ai pour 10 ans, là.
Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a une grande... Il y a vraiment plusieurs possibilités. Il y a même peut-être les deux possibilités, mmh. c'est-à-dire d'en faire une sorte, peut-être, de prologue.
Ouais.
De la durée ordinaire d'un spectacle.
Ouais.
Où on verrait comme ça une problématique se poser.
Ouais.
Avec quelques-uns des personnages qui existent dans la pièce, mm-hmm. et puis peut-être la grande saga qui se déploie, mais 10 ans, je sais pas, mais peut-être 10 ans, avec avec des générations qui se succèdent, ouais. au-delà de ce 14 juillet, mais c'est peut-être aussi la matière d'une œuvre d'une vie, enfin, c'est-à-dire que on entend souvent les auteurs dire « j'écris toujours la même pièce ».
Ouais.
Peut-être que c'est ce que Clémence la Victorieuse, dans l'état actuel, c'est la matrice de toute l'œuvre,
ouais.
à venir. Même si ça bifurque dans des endroits, ouais, très, ouais. très étranges. Ouais. Un des enfants de Clémence ou d'une autre, ou un des enfants de Jacqueline, qui sont dans la pièce, Mirabelle et Petit Luc,
ouais.
Qui irait à la ville ou à l'étranger ou qui deviendrait reporter photographe je ne sais quelle région du monde, enfin tout peut, mais avec toujours les mêmes casseroles à traîner derrière soi,
ouais.
toujours les mêmes, parce que y a, dans cette histoire là j'ai l'impression que c'est une chose importante pour toi, il y a un grand attachement à la généalogie.
Ouais.
D'où l'on vient et comment l'héritage se transmet ou ne se transmet pas, reste secret, se transmet par accident, par de manière très brutale. Enfin, je ne sais pas, je pose la question.
Bah, disons que il y a un attachement. Finalement, ce texte est écrit aussi en fait parce que Clémence apprend ses origines. Et il y a une révélation à elle-même, finalement, de son choix de vie qui n'est pas celui vers lequel elle pensait aller. Parce qu'en fait, toute la pièce, c'est aussi cette question sur son... Comme elle vit comme une recluse, son mysticisme et aussi sa vie de femme, son désir de femme.
Oui, elle est comme un ermite.
Ouais.
Elle vit nue.
Ouais.
Enfin, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Recluse dans la maison de sa tante... et d'un coup il y a l'exposition à la lumière, qui est la lumière des révélations et en même temps la lumière, tout simplement la lumière du jour,
ouais.
Et cette révélation là, cette exposition à la lumière du jour est une, c'est comme ça que je le lis moi, en tout cas que j'interprète, c'est l'instant limite où l'on décide si l'on va vivre ou si l'on va mourir.
Voilà, c'est ça, exactement, ouais.
Et finalement, elle choisit la vie.
Ouais.
Elle choisit la vie. Et on va peut-être finir sur une ultime question.
Oui.
Quelle joie d'être femme. Et Léonore, d'ailleurs, a dit hier, quelle joie d'être une femme. Ce qui même, je me dis, oh non, c'est dommage, parce que c'est quelle joie d'être femme. C'est ça que dit le texte.
Oui.
Alors, j'ai pas envie de me poser la question sur cette forme-là, mais j'ai quand même la posée. C'est le message ou c'est le testament d'une jeune femme à l'issue de la pièce, de dire quelle joie d'être femme.
C'est pour le personnage de Clémence, c'est en fait accepter de vivre, c'est accepter d'être femme, donc de aussi donner vie et dans.
En étant libérée de toutes les contraintes, c'est-à-dire
voilà.
d'être ça vient dire aussi, moi je l'entends aussi comme quelle joie d'être seule.
Il y a de ça aussi.
Oui, quelle joie d'être seule. C'est-à-dire, juste avant, elle avait plus ou moins pris la responsabilité des enfants de Jacqueline, orphelin. Et Gladys, la vieille femme, lui dit non, 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 je les prends avec moi, je m'en occupe vite à vie.
Oui.
Le prêtre lui-même reste là et l'envoie.
Oui.
L'envoie être seul dans le monde.
Oui.
Est-ce que la joie d'être femme ou d'être homme, au fond, ça ne change pas grand-chose, est-ce que la joie de vivre, c'est être seul dans le monde, en sachant qui l'on est? Est-ce que c'est est-ce que de recevoir la chose de cette façon-là, c'est avoir entendu une chose que tu voulais dire?
Je ne sais pas si je peux répondre.
Pardon, hein. C'est-à-dire que c'est vrai puisque j'entends,
ouais.
Comme ça, mais.
C'est-à-dire en fait, c'est la joie de se dire pourquoi. C'est la joie de se dire je commence ma vie dans cette dans ce sujet.
Comme sujet.
Comme sujet.
Et au centre de ma propre existence.
Voilà.
Mais c'est une solitude. Enfin, c'est comme ça que je
l'entends. Ah, de toute façon, c'est forcément lié à une forme de solitude.
Mm.
Mais aussi, cette solitude est ouverte à la multitude.
À toute la rencontre. À toutes les rencontres possibles. Mais non, ouais. C'est évident. Mais je ne peux rencontrer que dans la mesure où je me sais singulier.
Ouais.
Et sujet, effectivement.
Ouais. Et quelque part, c'est un peu. Je dis pas que c'est la problématique du comédien, de l'auteur, mais c'est aussi se dire comment j'accède à ma parole, enfin.
À l'affirmation.
À l'affirmation, ouais.
Oui, c'est ça que j'entends aussi. Enfin, ouais. J'aurais pu le dire comme ça. C'était un. Quelle joie d'être dans l'affirmation de ma présence, de ma propre présence au monde.
Ouais.
Sans autorisation.
Voilà, c'est surtout ça, ouais. Et ça, c'est la joie, c'est la naissance de la joie.
Mais pour n'avoir pas besoin de ces autorisations, il faut au moins être autorisé de savoir d'où l'on vient.
Ouais.
De qui on est, le fils ou la fille.
Ouais.
Eh bien, arrêtons-nous là.
Ouais.